Et il est bientôt 6h40 sur France Culture. Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Anne-Laure Chouin.
Dans votre journal des idées ce matin, 10 ans après les printemps arabes, la demande de justice sociale et de démocratie perdure dans les pays qui les ont vus naître.
Oui, Anne-Laure, c'est que, mis à part la Tunisie, ces mouvements n'ont pas abouti à de véritables transformations, voire ont sombré dans la guerre civile. L'hebdomadaire Le 1 revient sur cette histoire de révolution confisquée. Assef Bayat évoque une faiblesse constitutive due à l'absence de projet clair. Le sociologue est l'auteur d'un ouvrage non encore traduit dont le titre résume bien le problème, Une révolution sans révolutionnaire. Il décrit une mobilisation pour changer la vie mais sans dirigeant ni vision claire d'un ordre social alternatif et de la façon d'y parvenir. Leurs protagonistes n'ont montré que peu d'intérêt pour la construction d'une organisation et pour le leadership dans ses formes traditionnelles. Ils pensaient et espéraient que leur mobilisation populaire contraindrait les régimes à se réformer dans un sens démocratique, mais la plupart de ces régimes, malgré quelques belles paroles, ont refusé d'entreprendre de véritables réformes en matière de gouvernance et d'économie. L'autre défaut structurel provient selon lui d'un décalage persistant au sein de ces mouvements entre les élites et les classes populaires qui imaginaient la révolution autrement que la frange politique qui s'est mise à parler au nom de la révolution. Elles imaginaient un nouvel ordre des choses qui changerait leur vie et mettrait fin à leur marginalisation économique, aux terribles disparités de classe et régionales. Cette soif très forte de justice sociale s'exprimait essentiellement chez les urbains pauvres, les ruraux marginalisés et dans la classe moyenne pauvre, y compris les jeunes diplômés sans emploi. Pour y répondre, il fallait repenser radicalement l'économie et adopter une vision qui remette en cause le modèle néolibéral que la classe politique tenait largement pour acquis. C'est en ce sens-là, écrit-il, que les soulèvements arabes étaient des révolutions sans idées révolutionnaires. Et c'est pourquoi la justice sociale est restée l'aspiration la plus inassouvie de ces soulèvements, raison pour laquelle ils renaissent aujourd'hui au Maroc, au Soudan, en Algérie, en Irak ou au Liban, dans la continuité des printemps arabes et la référence partagée à cette histoire récente. À retrouver dans ce numéro le témoignage de Samar Yazbek, qui a pris part dès le début de la révolution syrienne avant d'être contrainte à l'exil. Je cite « La sauvagerie de la répression que nous avons subie pour des manifestations pacifiques dépasse l'imagination et les bouleversements qui ont suivi ont été si rapides et d'une telle brutalité qu'ils ne nous ont pas laissé réfléchir à ce que nous pouvions faire. Nous nous contentions d'encaisser la violence et d'essayer de raccommoder nos vies. » L'écrivaine avoue penser sans arrêt à cette Syrie que nous avons rêvée libre, unie, indépendante et démocratique et qui est aujourd'hui morcelée, écharpée et occupée par des forces russes, turques, iraniennes, américaines, djihadistes. Omar Al-Shogri a également subi la férocité de la répression du printemps syrien alors qu'il n'avait que 15 ans. Dans La Croix, l'hebdo, il revient sur la prison, la torture, la faim et la mort de ses proches dans les geôles syriennes. Lui, qui vient d'être admis à l'université de Georgetown à Washington, se souvient de la solidarité entre détenus. Il y avait des docteurs qui m'ont appris à prendre soin de mes plaies et des psychologues qui m'ont enseigné comment m'adapter à la torture. Tout cela en chuchotant à l'insu des bourreaux. C'est ce qu'il appelle son université des murmures. Aujourd'hui, il ne cesse de témoigner, en particulier auprès des juges d'instruction européens qui enquêtent sur les crimes commis en Syrie. Le site d'information Les Jours poursuit son enquête au long cours sur le procès de Koblenz en Allemagne, où l'ancien colonel des renseignements syrien Anwar Raslan est jugé pour crimes contre l'humanité aux côtés du sergent Eyad Al-Gharib. Au chapitre 14, c'est notamment le recours systématique aux violences sexuelles par le régime de Damas qui est abordé. Lena Burström, l'auteur de l'enquête, prévient lectrices et lecteurs, cet épisode contient des scènes violentes. Les violences sexuelles ne sont pas des incidents isolés, constate maître Patrick Crocker, représentant plusieurs victimes, parties civiles au procès. Ce sont des instruments de répression au même titre que la torture. Joumana Seif, juriste et activiste syrienne, souligne qu'en Syrie, une femme qui a été détenue est toujours soupçonnée d'avoir été violée, un stigmate déshonorant qui isole la victime et l'enferme dans le silence. Les bourreaux le savent bien.